Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième podcast de la NLC. Je m'appelle Gabriel Duquette, directeur général des sénateurs d'Ottawa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu beaucoup de demandes pour refaire un podcast, c'est pas surprenant. Mais on voulait en préparer un gros pour la fin de la saison, mais finalement avec la demande, on fait un spécial course aux séries. Je vais vous présenter mes invités. C'est les mêmes que la dernière fois. Donc, à ma gauche, mon mentor, Éric Hainaut, avec les Blue Jackets de Columbus. Salut, Éric.
Salut boys, salut Gab.
Salut, salut. En face de moi, Alex Bélanger, avec les Prédateurs de Nashville.
Salut Gab.
Salut, Alex. Et à ma droite, Francis Hainaut, Francis Hainaut, Francis Larocque, avec les Ducks d'Anaheim, l'équipe de l'heure dans la NLC. Salut, Frank.
Salut tout le monde.
Bon, les boys, bienvenue à vous autres. Commençons par féliciter en fait les équipes qui ont déjà leur X, ou à peu près tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas des X, mais c'est pas mal assez officiel. Donc, on félicite en fait présentement
Les trois.
les.
Vous trois, vous arrêtez de voir X en partant.
Ben non, je parle en plus la division centrale en fait, parce que Chicago, Winnipeg et Nashville, ils n'ont pas de X, mais c'est pas mal assurément. C'est non officiel, mais c'est quasiment confirmé, là. Mais non, c'est ça. Bon, ben, félicitations à Chicago, Winnipeg, Nashville, San Jose, LA, Ottawa, Boston, Philadelphie et Columbus. Présentement, félicitations si vous êtes dans la course, vous êtes dans les séries printanières. Donc là, les félicitations sont faites. Là, on va parler plus sérieusement. On va parler vraiment de la course en série puis des équipes qui se préparent plus en fait pour leur saison de golf. Donc, si tu veux commencer, mon Frank, avec ta
La
Alexandre.
question centrale, c'est la plus facile.
Ça va être Alexandre Bélanger, excuse-moi, ça va
c'est
être
Alex.
Alex.
Ouais, ben dans le fond, les équipes qui n'ont pas fait les séries, évidemment, Colorado, Dallas, Minnesota, Saint-Louis, ça a pas été, il n'était pas si loin que ça,
Ouais.
mais il y a eu quand même beaucoup de changements avant la date de la limite de transaction. Fait que assez simple, central, on ne sait juste pas quelle position, qui va finir premier entre Chicago ou Winnipeg. Nashville devrait finir troisième. Fait qu'on s'est juste pas rendu là, c'est juste ce qui reste à savoir, mais sinon le central c'est pas mal lock-in,
Ouais.
c'est assez simple comme division.
Il n'y a pas de X dessus, mais ça fait quand même déjà une bonne semaine que c'est confirmé.
C'est ça.
Alright. Et si je vais me faire un petit point. Je me rappelle pendant la date limite des transactions avec Saint-Louis, j'ai longuement discuté avec lui pour acquérir un défenseur et un attaquant qui étaient supposément disponibles. Je parle de Calvin DeHaan puis Mike Hoffman. Puis il a décidé de les garder. Pour le prix que j'offrais, je trouvais que c'était vraiment bien. On avait quasiment 90% d'une entente. Puis finalement, il s'est désisté parce qu'il a vraiment cru en ses chances en série. Puis regarde, ça a passé proche, mais ce sera pas le cas cette
Mais
année.
il s'est rajeuni quand même. Il a été chercher des pièces très importantes là, avec Pierre-Luc Dubois, qui va être ton premier centre,
Ah, ça, c'est une
qui est
super
ton
belle
joueur
transaction.
qui est ton joueur franchise. Yamamoto aussi, qui est quand même jeune à 22 ans. Fait que des noyaux, puis Alex DeBrincat à 23 ans. Ces joueurs sont très jeunes. Fait
Ouais,
que
pour un noyau jeune, justement, il avait encore confiance en ses
lui,
chances.
l'avantage, c'est que dès l'année prochaine, il redevient compétitif, puis on en repart.
Que Saint-Louis fasse pas les séries, c'est le grand bonheur du DG de Columbus qui possède son premier choix au repêchage cette saison. Qui
Oh.
sait? Peut-être qu'un Lafrenière pourrait retourner à Columbus dès l'an prochain.
Qui sait? Alright. Bon, ben écoute, pour la division centrale, c'est pas mal ça. C'est sûr que
Pas grand-chose à dire.
il y a plus grand-chose à dire là-dessus pour ce sujet d'aujourd'hui. Donc, on va passer par la suite avec la division Pacifique, mon Frank. Ta grosse division de l'heure.
Ouais, la Pacifique, ben, pas mal serrée, là. San Jose, c'est ça qui faisait serrée, ça, on savait tout le monde, on savait tout. Les Kings aussi. Calgary et Edmonton vont probablement les faire. Ils vont les faire, c'est sûr. La course se joue entre Vegas et moi, Anaheim. Ça va se battre jusqu'à la fin de l'année. Tout le monde a des avis partagés. Les deux, on a des gros calendriers jusqu'à la fin. Ça va se battre, ça va serrer. J'ai un match en main, mais même si je le gagne, je perds quand même au niveau des victoires. Donc, ça va me prendre deux victoires de plus que lui d'ici la fin d'année. J'aimerais ça que les adversaires tels Vancouver, Calgary, Edmonton puis Winnipeg, ça serait fun que vous plantez Vegas. L'année prochaine, je vous envoie une.
Non, c'est honnêtement, c'est vraiment le duel entre toi puis Vegas. C'est sûr que Calgary puis Edmonton, c'est quasiment officiel
Mais
en fait.
c'est officiel.
Parce qu'il y a encore trois places disponibles en fait pour avec la division centrale en fait. Parce qu'il y a les mettons qu'on prend les trois de la division centrale. Chicago, Winnipeg, Nashville. On inclut San Jose, LA. Il reste encore 3 places de disponibles. Donc,
Calgary à 98 points, c'est pas mal.
C'est pas mal fait,
ça aussi. Pas mal fait, c'est ça. On aurait quasiment
pu mettre. Edmonton, faudrait vraiment un revirement de situation.
Il faudrait une mauvaise séquence pour les
Cap. Il faudrait littéralement qu'ils perdent toutes ces games. Puis même en perdant toutes ces games, il y aurait encore des bonnes chances de faire les playoffs.
Selon moi, dans le Pacifique, c'est une course entre Anaheim et Vegas pour la dernière place. Le reste, c'est tout officiel. Edmonton, Calgary, Los Angeles, San Jose, bien sûr, en passant, qui sont à 3 ou 4 saisons d'affilée et de champion de la Ligue. C'est l'équipe à battre dans la Ligue, c'est San Jose.
Vegas et Anaheim, dans le fond, ils se battent pour aller se faire planter
contre la première ronde, ça va être corsé.
Tu sais, on s'entend qu'avec tes Ducks, Frank, là, 90 points, 5 games restants, on enlève la dernière game contre San Jose, là. Ouais, être honnête, là, il va te rester 4 games. Là-dessus, il faut aller chercher 4 games, 8 points. Tu montes à 98. 98 est égal à Calgary. Il faudrait qu'Edmonton, puis Vegas,
arrête de gagner.
Ben, c'est ça, il faudrait vraiment qu'Edmonton, surtout Vegas, fasse une mauvaise séquence.
Parce que peut-être que ça va se poursuivre encore. Là, je suis rendu à 10.
Ben oui.
Je ne me suis pas planté. Fait un petit bout. Je vais touche à la table est en bois.
Ouais.
Mais depuis le mois de mars, j'étais à 13 points. J'étais à 13 points de Vegas. Puis là, aujourd'hui, ben, j'étais à 2 points avec un match en main. Fait que j'ai fait toute une remontée quand même pour me donner. Encore comme j'avais dit au premier podcast, je voulais être une place en wildcard. Je voulais me battre pour une place. Puis c'est ça que je fais présentement.
Ah, tu réponds
à 82 matchs.
Tu réponds à tes paroles.
82 matchs toute l'année. C'est ça, c'était mon but. Je savais que je peux pas me battre contre San Jose puis Vegas puis Calgary. Que je savais que mes adversaires c'était Vegas puis Edmonton toute l'année. Je crois que c'est des équipes que je ne peux pas me comparer à eux. Puis eux autres ils ont très bien fait toute l'année. Là. Puis ça me prend 10 victoires pour me rendre là. Fait qu'imaginez comment ça m'aurait dû prendre toute l'année.
Je sais qu'il y a une game il y a 2-3 semaines contre LA. J'avais complètement oublié que je jouais cette journée-là. J'avais pas envoyé mon fichier. Ou peut-être ça faisait comme une couple de temps que j'avais pas envoyé mon fichier. Fait que là j'étais dû. Puis bref, en fait j'ai perdu comme 2-0 ou 2-1 contre LA. Puis ça, je sais que c'était un point qui aurait peut-être fait la différence. Même si elle est confirmée, là, ça a peut-être un petit peu brouillé les cartes. Là, mais
tu sais, si on regarde là, vraiment ta fin de saison, là, mettons ta prochaine game qui est contre Vancouver, bon, tu dois quand même. Tu dois te gagner ça. Edmonton, tu as gagné quand même 5-2 il y a juste deux matchs. Fait que tu peux quand même...
5-1 l'autre match d'avance.
Après ça, tu
as gagné 5-1, 5-2 contre Edmonton et Back-à-Back.
Après ça, tu as Dallas. Après ça, tu vas en avoir deux. Tes deux derniers vont être vraiment tough. Fait que tes points, il faut que tu aies vraiment les chercher dans les 3 prochaines games.
Exact.
Parce que Kings, San Jose, ça va être tough en maudit.
San Jose, j'aimerais s'en scorer un encore une fois. Fait que si 1-0 pour moi, c'est parfait.
Alright. Puis si tu peux signifier les deux équipes qui ne sont
pas. Ah ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Mention à Vancouver et Arizona. Que, ben, leur saison était. On savait. Ben, en fait, ils étaient là aussi qu'on les voyait tous. Il n'y a pas grand chose à dire. Arizona avait un bon début de saison.
C'est ça, Gabriel de Saint-Amand avait un très bon début de saison.
Je sais qu'il est capable de gagner. Fait qu'à l'année prochaine.
Mettons que la réalité a rattrapé les choses.
Hein? Ouais.
C'est ça. Alright. Bon, on va passer à ma section Atlantique. Donc, la grande course, en fait, est là depuis. Elle dure depuis vraiment longtemps. C'est serré depuis le début de la saison. C'est sûr que je l'ai nommé Tampa Bay, 94 points au troisième rang. Avec 5 games restantes. Floride, 94 points, 5 games restantes. Montréal, 90 points, 5 games restantes. Toronto, 86 points, 5 games restantes. Et puis, je rajoute aussi Détroit, que statistiquement, ils ont encore des chances. 81 points, 5 matchs. Il faut tout qu'ils gagnent, techniquement. Il faudrait tout que Toronto et Montréal les perdent, techniquement. Mention honorable à Buffalo, qui fait partie d'une division vraiment difficile. Donc, bravo à lui pour ses 85 points. C'est 80 points et c'est bonne chance pour ses 5
games. Quand t'es dernier et t'as 80 points, là, c'est frustrant.
c'est ça, comme j'ai dit, on a la division de la mort. Je la compare aussi avec la division Pacifique. C'est quand les 3-4 premiers ont déjà assurément 400 points et plus, là, c'est parce que quand même, il faut que tu te battes contre les autres équipes qui sont quand même une dizaine de points de plus que toi. C'est
mais à 80 points. Peu importe la division qui est, il n'aurait pas fait les séries pareilles.
Oui, mais c'est
parce que tu affrontes plus souvent
la grosse division.
La grosse division. Boston, pas facile à battre, mais Ottawa, c'est rien.
J'y donne une mention honorable, c'est une division vraiment pas évidente
dans cette division. Non, c'est une grosse division. On le savait. Quand tu regardes Toronto qui ne fait pas les séries, d'année en année, il est tout le temps là. C'est une vision qui se corse solidement d'année après année.
Exactement, avec l'expérience, donc tout le monde fait mention à propos de Mario. On on s'attend à ce qu'il soit capable de faire des revirements de situation comme dans sa saison. Mais avec les bonnes saisons comme Floride, super surprise. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui, quand même depuis le début de la saison, il se maintient au troisième rang, quatrième rang de la division. Donc, il était là tout le long de l'année. Tampa Bay, c'était lent parce qu'il y avait les bureaux, ils étaient vides. Puis, puis par la suite, ben là, quand les nouveaux sont arrivés, ben là, c'est sûr qu'on a, avec Simon, il y a eu un regout de vie, on va dire. Puis il y a eu beaucoup de transactions qui ont mouvementé l'équipe. Puis on dirait que malgré le prix que ça a quand même coûté, à mon humble opinion, les résultats sont là. Puis il se maintient encore en quatrième position. Il a dépassé Floride, il a dépassé Montréal. Donc bravo à lui.
Peut-être tes futurs adversaires.
Ben au début, techniquement, selon le classement, je m'attendais qu'il soit beaucoup plus bas que ça. Je m'attendais vraiment que Floride, Montréal restent dans leur position. Puis Tampa Bay se bat vraiment pour la wild card avec Toronto, mais c'est pas le cas. Là. C'est une très bonne équipe de l'heure présentement. Puis selon moi, c'est sûr que ça va vraiment se maintenir entre Tampa Bay, Floride puis Montréal pour la course en série dans ma division. Donc c'est pas mal ça. Bonne chance les boys. Suivant, la métropolitaine.
Ben, métropolitaine, c'est une course entre deux équipes pour une place en série. Les Flyers sont assurés d'une place en série en terminant premier de la métropolitaine avec 104 points, 6 matchs à faire. Columbus dans les séries avec 97 points avec 5 parties à faire. La lutte pour la troisième place en série, c'est entre Caroline et Washington. Tous les deux ont 76 parties jouées. Cependant, Caroline possède 2 points d'avance avec 85 versus 83 pour Capitals de Washington. Pour la dernière place en série dans cette division.
Oui, c'est pour la troisième place.
Oui, parce qu'automatiquement, la quatrième équipe de cette division-là sera éliminée. Caroline n'a aucune chance pour la wild card. Islanders, Pittsburgh, New York, Rangers et New Jersey auront des bons départs au terrain de golf près de chez eux. Des bons sièges devant leur poste de télévision pour regarder le reste de la métropolitaine jouer en série. Malheureusement, pour ces quatre équipes-là, aucune chance mathématique de faire les séries. Ils sont déjà éliminés. Déjà, certains DG devraient penser à l'année prochaine. Je suis sûr que certains DG sont déjà en train de faire leur liste pour l'an prochain. Fait que c'est une division qui...
Ben, pour moi,
sera peut-être surprenant.
Les quatre sont en train de regarder la première présentement à la télé, voir c'est lequel qui est. On y va-t-il pour un Laffy cette année ou un Studio?
Ben, c'est la question. Hein, c'est ça va être la question au repêchage, ça. Hein?
Si tu veux peut-être à court terme, c'est peut-être Studio. À long terme, ça va
être. Mais ça,
c'est
un autre sujet.
Mais vous pensez qui va passer entre la Caroline et Washington?
Moi, je vais avec Caroline. Caroline, pour moi, c'est une équipe Cendrillon cette année. Puis j'avais prédit en début de saison que Caroline était pour créer des surprises. Je ne pensais pas que c'était des surprises aux dépens des Capitals de Washington, mais d'après moi, Caroline devrait passer.
Caroline a un gros calendrier. Là. Toronto, Pittsburgh, New Jersey, Boston deux fois, les terribles Blue Jackets aussi qui affrontent. Washington, c'est un petit peu plus tranquille.
C'est pour ça que moi je pense que c'est Washington
mais
qui va passer.
Mais Washington doit l'emporter par les
Selon points. Selon toi, Washington va passer?
Moi je pense que Washington va passer. Tu affrontes les Rangers, les Red Wings, les Sabres. Là, tu as Toronto, mais après ça, tu as le Wild puis tu as Floride. Je trouve ça moins tough que ce que la Caroline doit avoir.
Mais ils sont à 3 points.
Mais je vais
être. 3 points puis 3 victoires. Fait que même s'ils créent l'égalité, ça va être au nombre de victoires que ça va se passer. Fait qu'ils doivent au moins avoir un point de plus.
Moi, je vais juste selon la logique de l'expérience de ma saison. J'ai gagné quasiment toutes mes games contre Washington puis j'ai perdu toutes mes games contre la Caroline.
Ouais. Il y avait peut-être son. Ouais, c'est sûr.
Puis chaque fois qu'il a gagné, c'est tout le temps un 3-1. Je suis pas capable de score avec le top 6.
Contre la Caroline?
Ouais.
Ben techniquement, ça, tu peux pas te fier à ça. T'sais, moi, techniquement,
non, c'est ça, je me fie juste à ça.
J'ai battu souvent San Jose, mais je pense pas que j'ai...
Ben, je trouve que, présentement, je trouve que Caroline remonte la pente, puis c'est capable de... Avec la grosse fin de saison qu'il y a, avec les équipes qui affrontent, qui sont quand même des battes des grosses équipes.
Ouais, c'est sûr.
Fait que je me dis que c'est une équipe qui... Ben, tu sais, c'est deux équipes très, très bonnes, là. On parle de 2 points de différence avec le même nombre de matchs, là.
Ouais.
Mais moi, je vois juste selon la façon que j'ai affronté ces équipes-là en saison, trouve que Caroline a une meilleure, pas une meilleure équipe, a une bonne équipe pour aller en série.
Ouais. Non, mais tu sais, je pense qu'entre les deux équipes vont être capables, d'après moi, d'en faire des bonnes, des bons résultats en série. Mais
tu sais, si c'est Washington, là, tant mieux si j'ai tort. Là.
Ouais.
Ça va être au dernier match, ça va jouer ça aussi, ouais. Cette série-là.
J'aimerais faire une mention honorable à Étienne Ménard de son article à l'aube des séries. Il a spécifié des dates importantes dans des équipes qui des dates importantes d'affrontement en fait des équipes. Anaheim contre Calgary aujourd'hui, c'était vraiment énorme. Une victoire de 6-1, écoute, là, je pense pas que personne s'attendait à un résultat comme ça. Fait que bravo à toi mon Frank, c'est un gros match de 4 points. Lâche pas la patate. Fait que, après ça, à Anaheim, après-demain, contre Edmonton.
Mercredi, en fait, contre Edmonton.
Ouais, je suis tout mêlé.
Ah, j'ai changé le nom des Ducks, finalement, c'est revenu les Mighty Ducks jusqu'à la fin de l'année, là, pour les
5 ouais, games
Ducks,
qui me restent,
ouais. C'est rendu les Mighty Ducks.
Correct, ça. Fait que c'est justement, t'affrontes Anaheim mercredi prochain. Après ça, il y a aussi Vegas qui va affronter Edmonton le premier. Ça va être un gros match important. Puis Edmonton contre Calgary le 5 mai. Donc ça va être vraiment pour terminer la saison. Puis je tiens aussi à mentionner le dernier match de la saison entre Toronto et Montréal. Ça va être énorme, ça, avec. C'est un autre calendrier qui a un autre match qu'il fallait noter. Mais pour le moment, c'est des grosses dates à surveiller. Donc, pour poursuivre, on va s'amuser, en fait. On va nominer, en fait, on va faire une petite gala de trophées avec les 4-5 derniers matchs qui restent pour vous donner du temps là, d'écoute, là, parce qu'en cette petite édition spéciale, là, on a pas mal fait le tour des courses là, pour les séries. Donc, on va aller avec les trophées, là, le trophée Hart, trophée Maurice Richard, trophée Calder, trophée Norris, surtout ces trophées principales-là. Donc, allons-y les boys. Commençons avec le trophée...
Maurice Richard. Le meilleur marqueur de la Ligue. Ben, il y a une belle course. Une belle course entre Leon Draisaitl de San Jose, Mika Zibanejad d'Ottawa,
Jack Eichel aussi,
de Floride. 44 buts, qui est en arrière de 4 buts sur Draisaitl, qui en a 48. Mais Zibanejad à 47 en arrière, le talonne de très près. Tantôt, on discutait ensemble des belles surprises. Et Chris Kreider, 42 buts cette saison.
Ouais, c'est une belle surprise. Exactement.
Thomas Hartle, très belle
Hartle,
surprise.
Hartle, depuis qu'il est arrivé à Buffalo, là, c'est la pluie et beau temps, pareil. Hein?
Fait que c'est des belles surprises, c'est d'une belle course. Selon moi, la puissance de San Jose va faire peut-être un léger avantage à Draisaitl.
Probablement. J'y enlève rien à Draisaitl comme j'y enlève rien à Zibanejad. Écoute, là, deux centres d'exception. Là, écoute,
94 points chaque.
Oh, ouais, c'est vraiment deux très belles saisons pour les deux. Écoute, là, ils vont même se battre aussi pour le Hart. Faut pas enlever ça. Là, on va parler de ça par la suite. Mais quel meilleur gagne. Là, bravo aux deux.
Il est avec qui?
Ben, moi, c'est Draisaitl. Je vois avec Draisaitl parce que ça n'osait. Peut-être un calendrier plus facile.
Draisaitl aussi, et Jackson Josey. Les buts vont parler en maudit ces temps-ci.
Zibanejad est un peu sur une séquence plus tranquille.
Je dirais que depuis la date limite des transactions, c'était slow. Il a fait une petite gang de 3 points, mais c'est pas grosse production depuis la date limite des transactions.
Draisaitl est un petit peu plus constant,
ouais,
peut-être.
Ouais. Il y a eu des très belles séquences, Ziba. Mais...
Je vais y aller aussi avec Draisaitl.
Ben moi, je vous emmerde, moi, je vais avec Ziba. Parce que c'est mon Ziba. Puis il m'a coûté cher. Fait que parfait, ok, ouais.
Le pointeur de l'année, mais
ça va être
Crosby. Là. Il est avec 7 points d'avance sur son plus proche qui est Draisaitl et Zibanejad. Puis Taves qui suit tout près derrière. Fait que Crosby va l'emporter.
Crosby avait quand même une belle saison avec Détroit, mais du moment qu'il est arrivé à Washington, là, ça a fait.
Mais belle saison avec Détroit, puis belle fin de saison avec Washington, combiné à 101 points présentement à 78 matchs.
Il faut pas enlever non plus Jonathan Toews avec les Blackhawks de Chicago, qui a été longtemps premier de la Ligue.
Ouais.
Au début de la saison, pendant les deux premiers mois, c'était lui le premier de la compteur. Puis, mais par la suite, les grands se sont réveillés. Fait que il faut pas y enlever non plus sa belle saison à Jonathan Toews, 93 points en arabe à lui.
Effectivement, Crosby est une classe à part.
Et encore Kreider, mention honorable. Grosse saison, 87 points là, pour Chris Kreider. J'aurais jamais donné ça.
Jack Eichel avec, là, il était longtemps dans le top 10, puis là, boum, il est rentré dans le top 5 des pointeurs. Puis il
c'est la pas mal la raison pourquoi Floride est aussi.
Ah, Bergeron a une là. Putain de belle saison.
Bergeron aussi,
aussi
mais c'est sa ligne de centre 1 et 2. Là.
Bergeron, il est 15e pointeur de la ligue avec 36 buts, 76 points.
Ouais. Ben c'est sûr que c'est pas l'équipe avec la plus de grosse de profondeur, mais les joueurs ils font les joueurs élites, les joueurs de franchise font la job.
Ouais,
c'est pour ça qu'ils sont là en ce moment.
Êtes-vous surpris de voir Connor McDavid au 11e rang?
Oui puis non.
Ben moi je suis surpris, j'aurais pensé peut-être dans le top 5 de la ligue.
Je sais pas si ça a un impact à cause de la tellement de la si grosse profondeur de des
possible,
Flyers.
Possible.
Tu sais, avec Seguin qui est en dessous, tu sais, ça comme ça coupe un peu la production peut-être. Tu sais, un McDavid peut-être avec moins, c'est bizarre à dire, mais moins de profondeur ou quoi que ce soit, peut-être qu'il aurait reçu beaucoup plus de temps de jeu. Parce que de mémoire, la dernière fois que j'ai affronté Flyers, lui, il utilise vraiment les trois trios à temps égal. Et là, d'après moi, c'est le powerplay qui change un peu la production.
Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que la plupart de ses matchs, il gagne par quasiment plus de 3 points, 4 buts. Il y a vraiment une équipe offensive selon ses résultats. Puis je regarde vraiment la liste de pointeurs. Puis il y a juste Connor McDavid dans les 20 premiers pointeurs de la ligue.
Ouais, après, tu descends au 32e, Oscar Clairboom.
Puis c'est même pas un attaquant. Il n'y a même pas de Marchand, il n'y a pas de Pasternak. Fait que, écoute, ça me surprend parce que j'ai regardé ses résultats.
Mais c'est une production égale, c'est une production repartie. Ouais, dans un monde idéal, chaque équipe, c'est ça que tu veux. Tu veux pas un gars de 100 points et tous tes autres joueurs ils font pas de points. Tu veux 6-7 joueurs qui vont faire beaucoup plus de points parce que s'il y a une journée que tel joueur fonctionne pas, ben au moins t'as l'autre qui va fonctionner.
C'est entièrement vrai. C'est pour ça que finalement, au final, ça me surprend pas finalement qu'il soit pas nécessairement dans le top 5, McDavid. Ça prouve que l'équipe est vraiment complète, équilibrée. Puis que, regarde, écoute, les autres joueurs à part McDavid, ils ont quasiment autant de points, mais ils sont pas dans les 25-30 premiers pointeurs de la ligue. T'en as des bons joueurs dans cette ligue-là, fait que. T'en as des bons DG qui savent placer les bons joueurs à bonne place pour les faire produire. Fait que, alright, pour le Hart, c'est pas mal fait le tour. On va y aller avec le Norris pour le défenseur. Mais, spécial Norris 2.0, je tiens à le souligner. On va faire un Norris offensif puis un Norris défensif.
Un Norris défensif puis un Bobby Orr.
Exactement. On va l'appeler le Bobby Orr pour le Norris offensif puis on va l'appeler le Norris pour le trophée défensif. Ça devrait être de même dans la Ligue nationale de hockey, je trouve.
Ouais.
Fait que... Frank, t'as-tu trouvé un... T'as-tu un
le pointeur, ben, c'est présentement, c'est Dougie Hamilton avec 80 points.
72 points. 80 minutes de pénalité.
72 points, qui est suivi par Clairboom à 70 points. Ça va se battre jusqu'à la fin de l'année.
Clairboom, il a vraiment rapproché parce qu'au début, là, Dougie Hamilton, là, j'étais de très, très, très loin d'avance. Dougie Hamilton, il a commencé à slacker pas mal sa production. Clairboom a continué, fait que là, ça s'est vraiment rapproché. Mais j'avais une méchante avance avant.
Tu sais, on parle pareil de Clairboom, puis passé ton dessin en bas, puis on a Ivan Provorov, après ça aussi à Philadelphie. Donc, quand même, deux défenseurs parmi les 40 pointeurs de la ligue.
Ouais.
Fait que tu sais, l'offensive n'est pas nécessairement axée juste sur l'attaque, elle est axée aussi beaucoup sur l'offensive.
Ouais.
Sur la défensive de l'offensive.
Tantôt, on parlait du Norris offensif et Norris défensif. Le Norris offensif, moi, je l'attribue à Hamilton. Mais le défensif, j'ai pas le choix de le donner à Clairboom parce qu'il est à plus 30.
Ouais.
Un défenseur avec 70 points plus 30.
Mais présentement, je regarde, puis même Provorov pourrait être le récipiendaire du Norris des deux. Avec 67 points, il est pas très loin, mais il est à plus 34.
Ouais, exact.
Lui, il compte vraiment les deux sens, autant offensif que défensif. Fait que le Norris.
Pour aller au
ça serait Clairboom, t'as entièrement raison là, écoute, un plus 50,
mais c'est Provorov, ça? Provorov avec plus 34, 67 points là.
Plus 34, un plus 4 de différence, ça serait Provorov. Philadelphie mérite le trophée du Norris des deux.
Avec Clairboom, puis voilà, ça serait...
C'est beau la défensive, de l'offensive d'Hamilton. Mais là, il faut donner là, que Philadelphie.
Ben, tout un duo de défenseurs.
François, c'est un.
La première ligne a déjà passé.
Waouh! Faut le donner.
Je pense que c'est Provorov, parce que Provorov, il a plus de hits. Il frappe plus.
Il y a moins de temps de pénalité.
Il y a moins de temps de pénalité. Puis même, je pense qu'il y a plus de tirs bloqués. En tout cas, fait que. Non, moi, ça serait Provorov. défensivement. Là.
Bon, mais Philadelphie, on leur donne les deux Norris, là. T'attends.
Non, Hamilton, bon.
Ouais. Hamilton pour la française.
Ah, ok, on donne Hamilton pour la française. Moi,
okay. Moi, quelque chose.
Je voulais faire un trophée honorable, puis faire, là, bon, on va l'appliquer.
Trophée de participation.
C'est ça.
Trophée de participation. Vézina, on va parler du Vézina.
Vézina. Alak. Alak, j'en avais un autre, j'avais noté. Crawford, qui avait pas une mauvaise saison. Mais c'est pas Alak, mais je donne quand même une bonne saison à lui.
41 victoires à Alak. Une transaction en début de saison qui a passé inaperçue.
Avec, tu l'as collé, en plus, ça allait être un des trucs qui allait faire la différence, puis ça devient le gars.
Avec une moyenne de 2,10, puis une efficacité de 91.
C'est un des seuls en haut de 900 aussi, en taux d'efficacité.
C'est très proche du 2. C'est tout un goaler à l'arc cette année. Hallmark, qu'on pourrait donner avec ses 44 victoires puis seulement 14 défaites.
Ouais, mais il joue dans une équipe boostée.
mais à l'arc, joue avec San Jose, une mort que j'ai avec Philadelphie.
Ouais. Pendant un bout, c'était Tuukka Rask. Tuukka Rask est peut-être 2-3e là, dans le.
Mais non, on peut pas donner ça à Hallmark. Là,
non, c'est ça. Mais...
Non, ben, personnellement, c'est à l'arc avec une moyenne de 910 d'efficacité, 2,10 une moyenne de buts alloués. Et il est en avant sur Ullmark, Rask, Markstrom et Crawford. Vasilevskiy qui rentre dans ce lot-là aussi.
Alak assez haut la main pour le Vezina cette année.
Effectivement. Alak, mais un très beau duo aussi de gardien de but à San Jose avec Alak et Samsonov.
Oui, de 2,10 et 2,12.
De jeunes. Moi, j'ai une question parce que là, on n'a pas parlé encore du Calder. Mais,
En tout cas, on a fini sur les gardiens.
On a fini pour les gardiens.
Moi, je veux juste dire de quoi à propos des gardiens. Mention honorable aussi, malgré Crawford, t'as quand même 39 victoires avec Crawford. Là.
Ouais.
C'est pas rien.
Ouais, t'es une très belle acquisition là, l'année passée.
C'est dommage qu'il prenne sa retraite. Alright, ma mention est terminée.
Ça fait mal.
Ah, puis aussi, à mon goaler, c'est Sanjari, là, et moi, mon meilleur scorer goaler, je pense, et j'ai marqué un but avec lui cette année.
Hey, Ranta aussi, il a scoré.
Hey, mon Markstrom, il a 3 passes cette année.
On n'a jamais vu des statistiques en gardien marqué.
Ah, c'est ça, on n'a jamais vu un goaler, mais c'est Price que j'ai vu.
Moi, je sais que j'ai 3 passes.
Ranta, il a 1 but, 3 passes.
C'est ça.
Price, dans sa carrière, il a marqué 25 buts et 56 passes. Je comprends pas c'est quoi les points des goalers, mais Price, avec 25 buts, une année de 5 buts, 6 passes, une année de 4 buts, 12 passes.
C'est quoi ça?
Je comprends pas. Price a 25 buts et 56 passes selon les fichiers. 25 buts et 56 passes. Je sais pas. On vient là.
Il est meilleur que Rick Stahl.
Il est meilleur que.
Même meilleur dans ma saison à moi. Tu sais. Bref. Bon, alright. Bon, ben, passons au Calder. Yes. Calder, ben, écoute, la course n'est pas finie malgré qu'il y a des joueurs qui sont tombés au combat.
Ah, ben, pour moi, c'est fini. Quinn Hughes, je vais le remporter. Un défenseur. Un défenseur aussi productif à son année recrue, c'est beaucoup plus important qu'un attaquant. En plus.
Oh, mais checker la profondeur de l'équipe. Moi.
C'est poche.
Joel Farabee, pour moi, il était solide. New York, il n'y a aucune équipe. Il n'y avait pas d'équipe, pas de profondeur. C'était des jeunes. Le jeune Farabee se trouve 47, deuxième recrue dans la ligue.
Ah, c'est sûr que tu mets Quinn Hughes avec les Rangers, est-ce qu'il fait autant de points?
Ben, il va être sa première ligne, puis il va être.
Non, Quinn Hughes, tu mets Quinn Hughes.
Quinn Hughes, sa première paire
à Rangers. Oh oui, c'est sûr que ça sa première paire à Rangers.
Mais
le point à Rekino, il est pas fou, pareil.
Mais ils vont par les points. Par les points, ils le remportent.
Kyle McCarr avec Vegas. Point. Vegas, ça va pas bien présentement, mais si ça aurait été bien, il aurait fait beaucoup plus de points que ça, Kyle McCarr.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai goût. Oui, je comprends l'équipe avec qui tu joues. Mais aussi Dunler aussi la même chose à Quinn Hughes, mais là avec les Rangers, je pense qu'il n'y a pas du plus que ça. Il aurait une moins bonne fiche d'efficacité, ça j'y donne. Il serait à moins 20, mais.
On parle quand même aussi juste d'un moins 4 pour Quinn Hughes.
Oui, mais pas à même profondeur d'équipe, pas à même défensive que.
Je sais même pas si c'est juste la deuxième paire en plus, Quinn Hughes.
Non, il y a une solide paire, hein? Top 6.
Farabee avec 47 points, avec un différentiel de moins 1. Avec les Rangers qui font pas les séries, qui sont déjà éliminés. Je pense que c'est un gros morceau.
Hein. Je suis du même avis de toi, Eric. Moi, j'ai goût d'y aller outside of the box. Dan Vladar, des Jets, le gardien. Première saison, il y a 41 matchs joués, 22 victoires en 32 départs. Il y a 22 victoires. Moyenne de 2.09, une efficacité tout près de 900 à 896. 5 jeux blancs. Pourquoi pas? Pourquoi
pas un gardien? Sérieusement, c'est une belle trouvaille, là. Parce que, ouais, c'est vraiment impressionnant. Il fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue. Malgré seulement 40 matchs partis
il...
jouer.
Oui, il a 23 ans, mais Colin, première saison, gardien, on sait comment que c'est tough. 22
victoires,
tout.
Effectivement.
Blader. Une bonne défensive devant lui, mais Colin...
Il n'étonnerait même pas que ce soit lui qui m'ait blanchi l'autre fois en plus contre
les Jets. Koskinen et Sabros ne sont pas des recrues cette année?
Qui ça?
Miko Koskinen des Red Islanders puis Sabros à Montréal.
Non.
Puis comme Miko
Sabros. Sabros, non.
Parce que lui, il y a deux ans.
Sabros,
hein?
Ça fait longtemps
qu'il est là. Oui, Koskinen aussi, c'est la même chose. Ça fait plus
Koskinen, plusieurs années. Tu fais une coupe d'année, mais Vlader, il sort vraiment.
Koskinen, il est déjà 81.
Moi, je voulais y aller un petit peu à.
Écoute, Vlador, c'est une belle surprise.
Vlador, c'est un joueur surveillé.
Quoi, c'est une belle surprise, ouais.
Dans la, dans la même vague, j'irais avec Shorten Kim, avec les Rangers.
Ouais, il était. Ouais, c'est vrai que parce que lui, il a pas eu la.
Le... Avec les Rangers, le même point que tantôt avec Quinn Hughes. Il est obligé avec les Rangers, puis sa fiche est pas. Il a 3,26 de moyenne, mais il a quand même 886 d'efficacité. Fait qu'il reçoit beaucoup, beaucoup de lancers, même s'il accorde beaucoup de buts, là, si je compare aux autres, il est quand même, son efficacité est aussi élevée que certains, puis il y a beaucoup plus de buts d'accorder.
Il aurait pas lu des meilleurs stats pareil.
Ouais, même il aurait pas lu
des stats. Il a connu des bonnes passes, mais de gars...
C'est vrai être la recrue de l'année, je pense pas.
Pour être recrue de l'année, ça prend quelque chose.
La recrue de l'année, là, c'est vraiment Quinn Hughes, puis le gardien Vlador.
Farabee, Vlador.
Puis Quinn Hughes.
Ok, fait que moi, toi, faudrait en nommer 3-4, là. C'est ça.
Ben, si on a 3, ça serait
ça. Pas nommer juste 2.
Farabee, Hughes, puis Vlador.
Quinn Hughes, Farabee, Makar, puis Vlador.
Ah ouais.
C'est ça. On en met 4, là, au moins. Là.
Ah, oui, ça te fait plaisir.
Moi, c'est
Quinn Hughes pour Frank, Vlador pour Alex, Farabee.
Farabee,
ouais. Ben, moi, je divise rien. Moi, je vais mettre Makar. Ouais.
Le choix, il est là.
Ben, moi, pour être honnête, là, moi, ma car, là, c'est comme McKinnon. Là, moi, je me le tatoue son nom dans pas long. Bonne chance pour vous tous, pour ces joueurs-là, pour la course au trophée.
Puis, mention à Gab Vilardi avec les Rangers, là, que lui, s'est battu, il est en haut de tout le monde, il s'est battu longtemps pour le championnat, puis il a dû abandonner pour une blessure, lui, c'est à la jambe, si je me trompe pas, quelque chose comme ça.
Ouais.
Lui, il était parti, là.
Il était dedans tout le long,
là. Il était dedans, maudit, là. Je sais que lui, il trippait bien gros, sans vouloir dire, là, fait que...
Faut leur donner mention honorable aussi aux New York Rangers. Il y a quand même deux, trois bons jeunes. Le gardien, Shelton Kinn et tout, qui produit bien, qui apporte des résultats. Le futur, il est bon, là, tu sais. Peut-être pas gagner des trophées. T'as passé proche, puis...
Je pense qu'il faut aller chercher maintenant des vétérans.
Ah ouais, leadership, d'expérience.
Je pense qu'ils vont...
Juste des combler des petits tours un peu partout, là.
Ouais.
Un peu partout. Ah, on avait oublié aussi le joueur défensif, le trophée Selke. Donc, allez-y, boys, vous en avez trouvé un.
Ben, techniquement, en plus et moins, en ce moment, lui qui domine, c'est Draisaitl. je pense à plus 48, quelque chose comme ça.
Non, plus 48 pour le Fertel.
Mais tu sais.
À 94 points. Charelli, plus 46 avec 76 points. Kopitar avec 88 points et plus 43.
Hey, Evan Kane, là. Hey boys, Evan Kane, le gars qui était le plus indiscipliné de la ligue quand je l'ai mis sur le marché, quand même plus 45.
Ouais. Non, mais il était à 204 minutes. Non, c'est intéressant. C'est pas, non, il,
237 il, minutes. Il a baissé, là. Des...
À plus 45 avec 237 minutes de pénalité. Taf. Et ça, c'est quand même le gars le plus.
Mais ça reste quand même. Que...
Le plus trouble maker de ton équipe, mais que. Le prix Brad Marchand. Le LNC.
C'est sûr que mon cœur va dire.
Anthony Cirelli.
Cirelli, mais quand tu regardes les statistiques de Draisaitl, plus 48, le gars, 94 points. Meneur dans les buts aussi, pour les buts comptés. C'est difficile à pas voter pour un gars comme ça. Cirelli a fait une belle course.
Écoute, ton Eric Cernak avec les Blue Jackets de Columbus, c'est le premier défenseur avec le meilleur différentiel, plus 40. Ouais. C'est pas nécessairement un joueur qui peut faire partie du trophée Selke parce que c'est un joueur, un attaquant. Mais ça, c'était une mention que j'avais pas vue plus loin. Eric Cernak, félicitations, pareil, 24 points, mais un plus 40. Puis.
7 premiers, 3 joueurs de Columbus en passant.
Dans les pointeurs officiels?
Dans les plus et moins.
Ok, ce qui démontre ton équilibre dans ta formation défensive. Moi, je vais y aller avec. Pas envie de donner dans sa tour, il gagne tout trop. Non, honnêtement, c'est le rallye, il faut y donner. Moi, un joueur que je m'attendais pas non plus qu'il fasse un 76 points, plus 46, mention honorable à lui, j'y donne mon vote.
Ouais, je pense que je vais y aller de ton bord, Gab. Je pense que je vais y aller avec Kevin Hurricane. Ouais. Moi, je pense que je vais y aller avec Kevin Hurricane parce que je vais aller un petit peu plus loin. J'ai vu avec les plus et moins. Je vais y aller aussi avec lui, c'est au niveau des mises en échec, là, 237
mises en fait, échec.
Jouer sur le premier trio aussi.
Jouer sur le premier trio, tu sais. Moi, je vais y aller avec lui pour les mises en échec, la différence. Parce que tout le temps, t'es pas mal. Il est égal, lui, il est à plus 1 de différence avec Cirelli. Puis Cirelli a 65 mises en échec, mais crime 237, on s'entend que c'est une méchante différence. Donc, moi, je vais y aller avec Evander Kane, honnêtement, pour le meilleur joueur défensif.
Ouais. Ouais, c'est vrai que les 237 font une grosse différence avec Cirelli. Rick, t'as perdu ton vote.
Moi, je vais aller avec Grass Idol. Grave, mon cœur parle, c'est Cirelli.
Vas-y, Fred. Moi, je vais avec Grass Idol, vraiment. Il était plus 48, puis en plus, il marque 94 points. C'est quoi la meilleure défensive? C'est l'attaque. Il est en score 94. 20 plus que les deux que vous avez nommés. En plus, à plus 48, c'est le meilleur joueur défensif. Il compte vraiment les deux sens.
Il n'y a pas 20 de plus.
Mais il est à 94 points. Cherry ouais. À 76, puis Evander Kane à 73.
Par rapport avec le différentiel,
non,
ouais.
En point.
En point, il se banait déjà de 92 points. On parle du trophée Selkie, Frank, le joueur le plus défensif. C'est le plus défensif,
ouais.
C'est ça.
Avec Bryce Hall, avec 94 points, tu vas parler d'Evander Kane avec 73 points.
Ben moi, selon moi, si on y va avec un attaquant qui va être le plus responsable défensivement, je regarde pas nécessairement vraiment ses points.
Ouais, c'est ça. Toi, tu irais plus pour le trophée.
Ben défensivement, il l'a fait. Il a plus 48.
Exact.
Il a plus 48. Puis en plus, il marque 94 points.
Exact.
Fait qu'il a plus 48 défensivement, meilleur joueur de la Ligue présentement. Puis en plus, il marque 94 points. En plus d'être bon défensivement, il te score des buts. Qu'est-ce que tu fais plus?
Ouais, c'est pas une mauvaise décision. C'est pas un mauvais choix.
C'est pas un mauvais choix. Je dis pas que c'est le pire choix non plus. C'est juste que c'est pas. On dirait que c'est comme. C'est comme si on. Mettons que. À chaque année, O'Reilly, Bergeron, c'est jamais les meilleurs pointeurs de la ligue.
Ben, ils sont pas très loin. Ils sont vraiment pas très loin.
Ben oui, ils sont loin, là.
Pas très très loin.
Mais Bergeron, puis O'Reilly n'ont jamais fait partie des top 10, top 15 des meilleurs pointeurs de la ligue
dans
les dernières saisons, je te garantis.
Je l'ai dit, ils sont pas très loin, mais ils ont une meilleure efficacité que ces deux gars-là.
Ouais, mais moi, je te dis que, mettons, dans la Ligue nationale de hockey, dans les 5 dernières années,
parce que là,
O'Reilly et Bergeron n'ont jamais fini dans les top 15 des meilleurs pointeurs de la ligue, mais ils ont quand même gagné le Selkie. C'est deux trophées différents.
On va vraiment avec des noms. On va pas la game.
Je pense plus que tu vas Draisaitl pour gagner le trophée Hart. Maurice Richard, puis l'autre trophée là, qui généralise la ligue au complet.
On voit pas les revirements. Tu vois pas les revirements, tu vois pas les erreurs qu'il commet, on voit pas la game. Fait, automatiquement, tu peux pas me nommer. C'est Evander Kane, Cirelli, on les voit pas jouer la game. On voit même pas de Versailles. C'est la stats de plus 48.
On parle des trois meilleurs différentiels Draisaitl, Cirelli et Patrick Kane. Draisaitl est deuxième pointeur de la ligue nationale, de la ligne LNC. 21e pour Anthony Cirelli et 23e. Donc, c'est similaire pas mal à la Ligue nationale. Ouais. Quand on prend les Bergeron versus. Ça peut arriver qu'une année, il y a un champion marqueur qui a le meilleur différentiel.
Mais c'est rare, ça arrive.
C'est rare que ça arrive.
C'est tout le temps des gars passer top 20 pointeurs parce que c'est leur rôle. Ben, c'est le rôle qu'on leur attribue. Ben, ton but, c'est pas nécessairement de produire des points, c'est pas de nous en faire marquer.
Il y a un tir bloqué, Charlie 13 tirs bloqués. Versailles le 5 tirs bloqués.
Mais il y a quelque chose avec la ligue.
Evander Kane a un tir bloqué dans
toute la saison.
Dans toute la saison.
Puis Cherry, il y en a juste 13. Oui, c'est des joueurs défensifs.
Puis Versailles
pas très défensif.
Ouais, mais regarde.
Versailles il y a combien de tirs bloqués?
Il y en a 5.
Fais juste trier les shot blocks. Là, tu vas voir que pendant. T'as au moins 100 défenseurs en haut. Puis après ça, ça
devient. Ben c'est ça, t'as McEvoy à 125 tirs bloqués.
Non, mais descend fucking vraiment loin.
Mais t'en as 42.
Le premier techniquement attaquant, là, c'est Joachim Nordstrom. Puis il y en a 28 shot blocked.
On parle de joueur défensif.
Ça, c'est un joueur de Vancouver.
Je vous dis, c'est dans là, c'est extrêmement dur de dire c'est qui le défensif parce qu'on n'a pas les revirements.
C'est ça.
Les défenseurs, quand ils sont nommés pour le Frank Selke, les statistiques de revirement sont comptées là-dedans.
Ouais, mais les statistiques de points ne sont pas comptées.
Ils ne sont pas comptées. Non, je le dis, mais eux autres, c'est parce qu'ils sont capables de voir le revirement puis la cause est faite dans une partie. Non,
fait que vu qu'on ne les voit pas, toi, tu inclus le point.
Moi, j'évoque les points. Okay. Vu qu'on ne voit pas la game.
Comprends ça.
Parce que c'est sûr
c'est bien vu aussi.
C'est sûr que tu sais.
Mais je pense que c'est le trophée. C'est parce que c'est comme
si... En plus, pour Dress Atoll, je nomme que San Jose, c'est l'équipe qui a le moins de buts accordés de la Ligue par 20 de différence. Fait, ton équipe qui accorde le moins de buts défensivement, t'es la meilleure équipe défensivement, donc c'est qui va Dress Atoll. C'est le meilleur...
C'est un autre point, c'est un autre bon point aussi. T'es l'équipe qui accorde le moins de buts, puis là-dedans, t'as le joueur qui a le meilleur différentiel. Ouais. Ben, pourquoi il ne mériterait pas le Selkie? Non, c'est un bon point. Puis moi, mon point, en fait, c'est le point d'Alex. C'est que, regarde, pour un joueur qui joue premier trio, puis qui a 237 mises en échec, avec au-dessus de le joueur le plus pénalisé de la Ligue, qui reste quand même troisième pointeur, devient le troisième joueur avec le meilleur différentiel. C'est les points que moi, je trouve, qui permettent de me convaincre. Ouais. Mais tes points sont aussi solides, hein, même quasiment.
C'est 159 buts accordés pour San Jose, là. C'est tous ces joueurs.
Mais ça, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe. C'est un autre trophée, on dirait.
Ben, non, ça, je comprends.
On a chacun notre vision un peu du trophée, puis c'est bien correct. Au bout de la ligne, Draisaitl, c'est pas un mauvais choix. Evan Rickens, c'est pas un mauvais choix. C'est really non plus.
On s'entend que comme ça s'en vient de même. Liam Draisaitl devrait être quasiment. Je fais 5 minutes, je cherche le nom, le titre du trophée qui ensemble le meilleur joueur de la ligue.
Ben, ça va être le joueur voté par les joueurs.
C'est un joueur qui est voté par les joueurs.
C'est ça, c'est quoi ce nom-là?
T'as le Art puis t'as l'autre.
Non, c'est pas
le Art Ross.
Non, Art Ross, c'est le meilleur marqueur, ça. Après ça, t'as le Mossy Chalk. T'as le Art,
là, c'est voté par les journalistes.
Par ses
pairs.
Ok, ben, je vais aller sur Internet parce qu'on se trouve.
J'y vais.
C'est l'autre, c'est le.
Il y en a un, là, c'est vraiment. Il y a un autre nom spécifique, c'est vraiment.
Le Bill Masterton.
T'es le meilleur joueur de la ligue. T'es pas le meilleur marqueur, t'es le meilleur joueur.
Bill Masterton, c'est pas le plus gentilhomme, ça.
Bill Masterton, c'est le meilleur comeback.
Le comeback, ouais. Mais moi, le comeback, on peut pas vraiment le voir, ça serait trop compliqué à le voir. Maintenant, j'en ai nommé un, là, que je vais me garder.
Lady Bing, c'est le moins puni.
Stat leader.
On s'entend que Evander Kane ne sera pas dans les candidats.
Moi, je pense
que
c'est le Ted Lindsay.
Le Ted Lindsay, merci. Donc, pour le Ted Lindsay, là, tu peux le donner à Liam Draisaitl.
C'est ça qui le remporte.
Parce que, ben oui, parce que là, tes arguments sont beaucoup plus solides. Le gars a 94 points, il est plus 48, les meilleurs différenciés de la ligue, il fait partie de la meilleure équipe, c'est le meilleur, avec les meilleurs buteurs, c'est le meilleur joueur de la ligue de cette saison, Liam Draisaitl. C'est lui qui mérite le Lady Bings, Teddy Bings.
Ted Lindsay.
Ted Lindsay, je m'aime où.
C'est même pas un trophée dans la ligue, ça.
Non, mais c'est. Ouais, c'est ça, il n'existe pas dans le trophée, mais si on le rajouterait, c'est le trophée de la Ligue nationale de hockey, ça, le Ted Lindsay, c'est le meilleur joueur de la Ligue, tout simplement. C'est pas nécessairement le meilleur buteur, le meilleur marqueur. C'est dans l'ensemble de tous les trophées qu'on met ensemble, on en fait un.
Mais
c'est
même
quoi?
Défenseur.
Là, je le donne à Leon Draisaitl. C'est tout. Simple de même.
Ouais, donnez à Draisaitl, là. Moi, je donne mon Bill Masterton à Brogan Rafferty, un gars de Dallas, que c'est le seul joueur de la LNC qui n'a pas encore scoré. Fait que ça se fait qu'il fasse des passes là, pour qu'il en score un. Là, et c'est le seul qui est à zéro but cette année.
Ok. Ok, moi, Bill Mastin, j'ai pas pris le temps de faire des recherches.
Il
n'y
a pas
de
comeback cette année.
Vraiment. Non, il n'y a pas de comeback. Écoute, là.
C'est à part Alak. C'est Alak, personne ne voyait vraiment. L'année passée, c'est une grosse saison, Alak. Dans la ligue. Ça peut être un. Il est arrivé avec San Jose au début de la.
Ben j'allais justement en parler d'Alain.
Ah, vas-y.
Le joueur le plus utile dans une équipe.
C'est Alain, tu sais, c'est lui qui a accordé les 159 buts. C'est aussi.
Si la tenue de Alain n'est pas ça cette année, est-ce que San Jose finit premier?
C'est la question, ça. C'est une bonne question, ça. Puis j'ai pas envie d'y répondre.
Alak l'année passée.
Non, ça c'est une bonne réponse. Si on aurait donné celui qui a fait un changement dans une équipe.
Ah, oh, mais moi c'est sans équivoque, c'est Alak.
C'est Alak.
Je l'ai dit au podcast des trades que c'était le trade de l'année. Pour moi, ça va rester jusqu'à la fin.
Mais hein. Avez-vous.
Ben, Alak, mention. Puis peut-être, mettons, Crosby, s'il amène Washington en série en fin d'année.
Oui.
Et nous, celui qu'on a tout voté qui était un petit peu moins de chance que Caroline. Si elle réussit à l'amener, Crosby, je trouve qu'il mérite une coupe de vote, peut-être.
Ouais,
mais
ouais,
c'est sûr qu'Alak, je vais à Calac, mais
Crosby, il deviendrait le meilleur pointeur de la ligue. Il faut quand même.
Un bon deuxième choix. Quand même
lui donner ça. Surtout s'ils vont en série Washington, il pourrait être un bon candidat. Alright. On va faire une petite pause. On va essayer de replanifier notre horaire, si on poursuit ou pas. Bon, ben, on a fait une petite réunion, fait qu'on n'a plus vraiment d'idées. On est rendu à 43 minutes 30 secondes. Fait que j'espère que ça vous a plu, boys, les DG. Et puis, on va se reparler, en fait, pour l'édition fin de saison. Et puis, pour faire exactement nos prédictions pour les séries éliminatoires de 2021. Donc, là-dessus, les boys, si vous avez des mots à terminer, je vous laisse.
Ouais, juste par viser le DJ des Flyers, Frank Grimard, check Twitch, je suis dans les séries cette année, gros.
Le message est inversé. Bon, Alex, est-ce que tu as de quoi rajouter?
Non, bonne chance aux équipes qui restent, qui sont dans la course aux séries. Puis bonne chance aux équipes qui vont arriver en série. C'est pas mal ça.
T'aimerais-tu affronter une équipe spéciale? Avertir une équipe que t'es pas loin?
Qui te fait peur? Qui te fait peur dans...
C'est lui, il vient de dire, Eric, Philadelphie, il fait peur.
Moi, Philadelphie me fait peur dans ma division.
C'est pour ça qu'il fait une petite menace de même.
Honnêtement, je suis pas confortable à affronter les deux. Je suis honnêtement pas confortable à affronter les Jets et Chicago. Les deux ont, selon moi, plus de profondeur que moi. Puis en série, je pense que c'est ça qui est important. Je pense que j'ai mieux performé contre Chicago, fait que je dirais que j'aime mieux affronter peut-être Chicago que Winnipeg. Mais honnêtement, entre les deux, je vais être honnête, les deux me font peur. Là, ça va être je suis pas en très bonne position. Mon équipe a perdu beaucoup de momentum aussi en fin de saison. Là. Les deux me font peur, mais regarde, on va y aller. Puis let's go, on se force à gagner.
Let's go, bonne chance. Bon, Frank, close le dossier.
Ah ben, moi, si je l'ai fait, ça va être San Jose. En plus, je l'ai pas en première ronde, mais...
Pourquoi t'as peur de San Jose?
Pourquoi j'ai peur de San Jose? Ils m'ont pas planté, puis j'ai gagné une fois contre eux. Fait que je suis capable de le faire. Fait que faut juste que je finisse par remporter des victoires d'ici la fin de l'année, puis après ça, on sait jamais.
Ben, mon Frank, moi, je t'ai dit, pour terminer notre podcast, je souhaite vraiment la grande bonne chance parce que parmi nous quatre, t'es le seul qui n'est pas encore classé en série. Exact. Puis Chambly, ben c'est justement c'est le hood, represent CBY. Puis you know what I mean?
À Chambly, t'as une coupe de contender pour la finale de la Coupe Stanley. Fait que ça serait le fun qu'elle se ramène ici puis qu'on fasse un beau petit défilé.
L'affaire, c'est que t'as été l'équipe qui a pris le plus de risques pour te rendre en série.
Aussi. Ah ouais. Ben. Je tiens à leur dire là, ton trade de Hintz, là, il peut-être pas qu'il fait une grande différence, mais on dirait que ça a bien équilibré. Peut-être que Thomas n'était pas dans la bonne équipe.
C'est le mois de février que je commence à bien performer. J'ai eu un petit slump de deux semaines que ça a moins bien été, là, mais depuis le mois de février, même janvier, je dirais là, que j'ai vraiment fait... ma deuxième demi de saison est vraiment très bonne. Si on aurait commencé l'année en plein mois d'hiver, je suis en série. Je suis sûr que je suis en haut de Edmonton et Calgary d'ici ma deuxième fin d'année. Là, j'ai une très grosse demi de saison. Ma première demi de saison n'était pas là. Je n'avais pas les joueurs non plus. Puis j'ai quelques grosses blessures en fait. Puis ma stratégie fonctionnait pas. Ça gagnait pas contre les équipes que je voulais, mais je gagnais contre des équipes que je m'attendais à perdre. Là, ben, depuis la deuxième demi de saison, je me suis mis à remporter des matchs. J'ai eu des petits slums, mais là, ma fin de saison, je suis bien content avec mes 10 victoires.
J'espère que tu es content. Lâche pas là-dessus, sérieusement. Tu as mon vote pour ta place en série. Fait que, là-dessus, les boys.
Ton côté, Gab, tu as peur de qui en série?
Pour être honnête, Floride-Montréal. C'est deux équipes qu'on est quasiment even à... J'ai gagné la dernière game contre Flyers, mais c'est des équipes qu'à chaque game, je suis stressé, je sais même pas qui va gagner. C'est tout le temps par un but ou deux. Mention honorable à Toronto puis à Tampa Bay, mais tout au long de la saison, je les ai eus en résultat de façon assez convaincante. Donc, parmi ma division, ça va être vraiment Montréal ou Floride. Donc, bonne chance à vous autres, les boys.
Boston, il n'y en a pas de problème.
Boston... Écoute, malgré l'acquisition de Seth Jones, c'est une équipe que je lui donne toute la mention honorable, mais non, j'ai pas peur de lui.
Parfait.
C'est aussi simple que ça. Donc là-dessus, les boys, j'espère que vous avez aimé l'écoute. On se revoit au troisième podcast pour la fin de la saison et les prédictions des séries éliminatoires.
D'ici deux semaines, hein? C'est deux semaines.
Exactement. D'ici deux semaines, on devrait avoir un nouveau podcast.
Salut, messieurs.
Au revoir, messieurs. Attention à vous autres.